This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jason l'histoire, ou quand le jazz retrouve quelques repères, une émission de Gérard Viol, c'est Alain Vaquier, réalisé par Bruno Bertrand. Cette année-là, c'est 1989. 1989, en France, le président François Mitterrand vient d'être réélu. Il a été réélu en 88. Et 89 va d'ailleurs le trouver en petite forme, mais il ne comprendra pas très bien ce qui se passe en Allemagne cette année-là. Cette année-là aussi, on condamne un jeune homme, Patrick Diels, on le condamne à la perpétuité pour le meurtre de deux adolescents. C'est un innocent, il sera libéré ces dernières années. On inaugure le Grand Louvre, on inaugure donc la pyramide, c'est le 29 mars, et on le fait sur fond de délits d'initiés, c'est-à-dire que certaines personnes dans l'entourage du président de la République semblent avoir subi quelques corruptions et donc avoir bénéficié de leur situation vis-à-vis du président de la République. C'est le deuxième mandat de François Mitterrand et les choses commencent un petit peu à se déliter. Et l'entourage du président commence à tirer avantage, disons, de leur position. Mais les événements sont ailleurs. Les événements vont être, tout au long de cette année, vont être en Allemagne, en Chine également, et puis en Roumanie et dans un certain nombre d'autres pays d'Europe ou du monde. Alors aujourd'hui, on va en rester à l'Allemagne parce que cette année-là, 1989, eh bien, quelque chose va se produire qui va modifier considérablement et pour longtemps l'équilibre géopolitique du monde dans sa totalité.
À 5h moins le quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. La zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande. Chacun leur tour, ils prennent la pioche, cassent un morceau du mur qu'ils gardent dans leur poche en souvenir. Le cadenas est cassé et les portes s'ouvrent. Vers 23h la nuit dernière, des milliers d'Allemands de l'Est ont forcé les frontières qui séparaient l'Est et l'Ouest. Les gardes-frontières n'interviennent pas. En théorie, les services de police de RDA devaient vérifier les papiers de cette foule. Très vite débordés, ils renoncent. Certains Allemands de l'Est, incrédules devant cette liberté accordée si brutalement, hésitent plusieurs minutes avant d'oser franchir la frontière. Et là, sur le pont de Bornholmer, 28 ans après, les deux côtés se retrouvent. À pied, en vélo, en voiture trabante, ceux de l'Est entrent à l'Ouest. Leur liberté est totale, on offre du champagne et du coca. Et pendant ce temps, des Allemands de l'Ouest passent à leur tour, sans visa, à Berlin-Est, juste pour vérifier que c'est bien possible. Jusqu'à présent, les Allemands de l'Ouest, en effet, devaient attendre un visa de 48 heures à 6 semaines.
Comment on dit en France? Fraternité, liberté, égalité. Et je crois que ça vient ici aussi.
Moi, je suis obligé de rester ici. Quand on travaille, on travaille.
Jusqu'à l'aube, les Allemands de l'Est ont envahi les rues de Berlin-Ouest. Ils veulent voir, et Berlin, avec eux, redevient Berlin. C'est incroyable, c'est la première fois que je viens ici. Mais après je rentre à l'Est parce que mes enfants sont à la maison. À 3h du matin, embouteillage monstre dans le centre de Berlin-Ouest. Oui, c'est beau. Et puis on est libre.
On vient de Leipzig. Et ce matin à 7h, on retourne au travail. On a entendu la nouvelle à la radio et voilà, on est venu. Ah, c'est incroyable.
Moi, je n'ai jamais vu de choses comme ça. Nous voulons juste regarder tout ce qui est là. Après, on rentre.
Jamais, jamais on ne reviendra. J'ai peur qu'ils referment pour toujours.
Cette famille était hier soir une exception. Les Allemands de l'Est, la nuit dernière et aujourd'hui encore, veulent se prouver que c'est possible. Désormais, ils peuvent aller à l'Ouest, même pour une simple promenade.
Donc, cette année-là, 1989, eh bien, la situation politique a changé. Les Soviétiques ont annoncé leur retrait d'Afghanistan sans victoire. Rien n'a été changé. Et on sait aujourd'hui que rien ne changera en matière de paix en Afghanistan. Au printemps de 89, la Hongrie a ouvert son rideau de fer. La Hongrie a des frontières communes avec l'Autriche notamment. Donc, ça produit une sorte d'appel d'air. En août, de l'autre côté, Tadeusz Mazowiecki, membre de Solidarność, syndicat d'ouvriers polonais, devient premier ministre en Pologne. Certains observateurs à ce moment-là pensent qu'une contagion de liberté va gagner aussi les Allemands. À la fin de l'été, les Allemands de l'Est se mettent à quitter le pays par centaines, puis par milliers, sous des prétextes de vacances en Hongrie, où les frontières sont ouvertes. En 3 semaines, 25 000 citoyens de RDR vont rejoindre la République fédérale allemande via la Hongrie, l'Autriche. Des trains vont d'ailleurs être organisés pour faciliter la transition de ces populations. À Prague notamment, l'ambassade de République fédérale allemande est littéralement envahie par des gens qui sont donc passés en Tchécoslovaquie et qui se sont réfugiés donc dans cette ambassade, qui va devenir une véritable ville. On comprend bien qu'une ambassade n'est pas faite pour accueillir des milliers de personnes, et c'est pourtant ce qui va se passer. Il y aura jusqu'à 2500 personnes dans l'ambassade de RFA à Prague. Et c'est d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères, Gelscher, qui va organiser là aussi la sortie, parce que ça devient invivable, de ces gens via un train qui va traverser l'Allemagne de l'Est et passer à l'Ouest. À Varsovie, des dizaines de milliers d'Allemands de l'Est font le siège aussi de l'ambassade de RFA. En RDA, donc en République démocratique allemande, démocratique entre guillemets, qui est donc l'Allemagne de l'Est, la contestation enfle. Les églises protestantes, comme celle de Saint-Nicolas à Leipzig, accueillent des prières pour la paix. Elles sont le germe de manifestations du lundi à partir de septembre. 20 000 manifestants vont défiler dans les rues de Leipzig le 3 octobre 1989. Mikhail Gorbatchev, qui vient à Berlin-Est célébrer le 40e anniversaire de la naissance de la République d'Allemagne de l'Est, indique à ses dirigeants, et d'ailleurs ça va jouer un très grand rôle, que là, le recours à la répression armée est exclu. On ne refera pas le coup de Budapest, on ne refera pas le coup de Prague. Et donc le premier secrétaire soviétique exclut tout recours à la force. Alors il y aura bien une tentative de reprise en main par les rénovateurs du parti communiste allemand, est-allemand, mais les choses ne marcheront pas très très bien. Les manifestations vont continuer. 1 million de manifestants à Berlin-Est le 4 novembre, 5 jours avant la chute. Des centaines de milliers d'autres dans les grandes villes de RDA. Alors de tergiversation en tergiversation, le gouvernement de l'Allemagne de l'Est va hésiter, va lâcher du lest, va en reprendre et puis finira par tout lâcher au point que, comme on vient de l'entendre, le mur tombera. Et on conservera cette image absolument insolite d'un des plus grands dissidents soviétiques, Rostropovitch, avec son violoncelle, qui ira jouer au pied du mur. Alors pour expliquer ce qui s'est passé, parce qu'au-delà de l'événement de cette chute du mur, dont on dit qu'il avait 28 ans d'âge au moment de sa chute, et donc au moment de la réunification de Berlin, qui est la capitale de l'Allemagne historique, il faut bien comprendre que les choses ne se sont pas passées juste au moment où on a construit le mur. Les circonstances, le contexte de ce qui s'est passé est bien antérieur et il remonte très exactement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Mai 1945. Berlin, cité symbole de la puissance nazie, agonise. Dans les entrailles déchiquetées du monstrueux régime hitlérien apparaissent les visages décharnés aux yeux glacés d'effroi des rescapés des camps de la mort. Et pendant qu'à Nuremberg se prépare le procès des criminels de guerre, à Potsdam, les quatre nations alliées, États-Unis d'Amérique, Union soviétique, Grande-Bretagne et France, signent en juillet l'accord divisant l'Allemagne vaincue en quatre zones d'occupation. Berlin, située au centre de la zone d'occupation soviétique, est à près de 200 km de la frontière occidentale. La ville n'est plus qu'un champ de ruines où s'entassent des centaines de milliers de réfugiés allemands qui ont fui l'armée rouge ou qui ont été expulsés des territoires de l'Allemagne orientale, passés sous contrôle soviétique ou polonais. La population est employée au déblaiement des 25 millions de mètres cubes de décombres. Progressivement, la méfiance s'installe entre le camp occidental et le camp communiste. Dans la zone soviétique de Berlin, à l'est, les communistes allemands occupent tous les postes de commande. Les occidentaux y voient les prémices d'un coup de force de Staline. C'est ce qui va se produire. Le 24 juin 1948, le chef de l'État soviétique fait bloquer toutes les voies terrestres et fluviales conduisant à Berlin-Ouest. Pendant 11 mois, les 2 500 000 habitants du secteur occidental vont vivre dans la faim, dans le froid, dans l'obscurité. Un pont aérien est finalement mis en place par les Américains et les Anglais. Il va sauver la population de la famine. Le 12 mai 1949, les Soviétiques se décident à lever leur barrage. La ville retrouve sa liberté. Mais la guerre froide commence. Pour 40 ans. Et Berlin-Ouest en sera le symbole. En octobre 1949, 5 mois après la fondation de la République fédérale allemande, la zone de l'Allemagne orientale contrôlée par les Soviétiques devient la République démocratique allemande. Il y a désormais deux Allemagnes, comme il y a deux Berlin. Une ligne frontière tracée sur le sol sépare les deux villes. Mais ce n'est pas suffisant pour empêcher la fuite de la population de l'Allemagne de l'Est. Pour stopper l'hémorragie, les autorités de RDA multiplient les fermetures des rues. Ils interrompent les liaisons des tramways et des bus. Seul le métro continue de relier l'Est à l'Ouest. les communications téléphoniques sont coupées et les 81 postes d'accès à Berlin-Ouest sont étroitement surveillés. En 1953, les mesures se renforcent encore davantage après le soulèvement des ouvriers de Berlin-Est qui exigent des réformes démocratiques et protestent contre des normes de travail trop élevées. La révolte qui s'étend à toute l'Allemagne de l'Est est matée par les chars soviétiques, appelés à l'aide par le gouvernement communiste de Walter Ulbricht. Staline, 73 ans, est mort depuis quelques mois. Khrouchtchev, qui lui succède, se veut plus rassurant, plus tolérant, plus démocrate. Il déstalinise. Mais c'est tout de même lui qui donne l'ordre d'ériger un mur à Berlin. Le 12 août 1961, vers 16h, les premières pierres du mur sont scellées. Les Berlinois de l'Est se précipitent vers les points de passage, bousculant les soldats, passant de force, avant que la porte ne se referme. En une seule journée, 4000 personnes fuient vers l'Ouest. Parmi elles, Konrad Schumann, le premier garde-frontière à sauter la haie de Barbelé. Le lendemain, 25 000 miliciens, appuyés par les Vopo, prennent position le long de la ligne frontière. Un homme armé tous les 2 mètres. On déroule des barbelés, les chaussées sont dépavées, le mur s'élève. Policiers et membres des groupes de combat de l'armée de RDA expulsent les habitants des logements situés à proximité de la ligne de démarcation. Dans d'ultime tentative de fuite, les gens sautent par les fenêtres. Le 19 août, Rudolf Urban s'écrase au sol de la Bernauer Straße. C'est la première victime. Toutes les ouvertures permettant de fuir sont désormais murées. En Occident, les protestations sont faibles. Kennedy lui-même se déclare rassuré. Ça prouve, dit-il, que Khrouchtchev n'a pas l'intention de s'emparer de Berlin s'il construit un mur. 2 ans plus tard, le président américain en visite à Berlin-Ouest lancera son fameux « Ich bin ein Berliner » pour témoigner de son indignation devant le mur de la honte. Mais il faudra attendre longtemps encore avant que le mur ne s'effondre, le 9 novembre 1989.
Alors la chute du mur va entraîner 2 conséquences. La première, c'est que la paix, qui n'avait jamais été signée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, va l'être le 12 septembre 1990 à Moscou. Le traité de Moscou va rendre à l'Allemagne sa pleine souveraineté. La chute du mur a donc abouti au bout 1 an à la réunification des 2 Allemagnes, RFA et RDA, le 3 octobre 1990 très exactement. D'ailleurs, le 3 octobre est le jour de la fête nationale allemande depuis. Les Allemands appelleront cette journée, cette période, le tournant, parce que c'est le moment où ils vont être réunifiés et où des familles même pourront se retrouver, puisque le mur avait aussi séparé des familles entre cousins, entre frères et sœurs, etc. Alors, beaucoup de choses vont se passer et la France va avoir une attitude pas très sympathique puisque le président Mitterrand ne croira pas. Il pense que les Soviétiques ne vont pas laisser la réunification se faire. Il se trompe. Les Américains, eux, ne s'y trompent pas et soutiennent fortement cette idée que l'Allemagne va se réunifier. Et Helmut Kohl, le chancelier allemand, y parviendra, non sans mal, mais il parviendra à ses fins et il débloquera des crédits très importants pour tenter de remettre un peu un certain équilibre entre les 2 Allemagnes qui, évidemment, n'ont pas le même niveau de vie. La seconde conséquence de l'ouverture du mur, ce sera la désagrégation de l'Empire soviétique. À Prague, la révolution de velours, le 18 novembre 1989, va mettre fin au communisme. On y reviendra. Au même moment, en Bulgarie, le stalinien Todor Jikov doit accepter son remplacement par un communiste plus ouvert. En Roumanie, Nicolae Ceaușescu est éliminé très violemment lors de la révolution qui a lieu dans ce pays. Et en Union soviétique, les États baltes proclament leur indépendance en mars et mai 1990, provoquant ainsi les premières brèches qui allaient remettre en cause l'unité, l'existence même de l'Empire soviétique, lequel disparut à son tour 18 mois plus tard, le 26 décembre 1991, la destruction du mur signifiait la fin d'une Europe coupée en deux.
Thank you.
El Sueño, une composition de Kenny Barron qu'on entendait ici au piano, qui accompagnait Sanguès au saxophone ténor, Jean Mraz à la basse et Victor Lewis à la batterie, enregistrée en mars 1989. Cet enregistrement de Sanguès ne sortira que quelques années plus tard. Ce sont les dernières sessions d'enregistrement qu'il réalisera. Cet musicien qui est sorti du courant cool, qui s'en est affranchi, qui a développé un style très personnel avec ce son si particulier que l'on entend ici. Et puisqu'on l'appelait, on le surnommait Mr. Sound, parce que vraiment c'était un son que lui envoyait John Coltrane d'ailleurs. Voilà, les étoiles des génies du jazz sont en train de pâlir. Sanguès disparaîtra 2 ans plus tard, à l'âge de 64 ans, d'un cancer du foie. D'autres sont aussi sur le point de disparaître. Miles Davis disparaîtra aussi en 91, 2 ans plus tard. Et je peux dire que, de mon point de vue, le jazz est un petit peu dans le creux de la vague et qu'il ne s'en sortira plus vraiment et que nombreux, les grands musiciens, disparaîtront au fur et à mesure. Je vous propose d'écouter pour terminer, pour se quitter, une dernière composition. C'est une composition de Mal Waldron, thème assez connu, Soul Eyes. Soul Eyes, extrait de The Lost Sessions, pour la marque Verve, enregistré donc par Sanguès 2 ans avant sa disparition. Demain, nous quitterons l'Allemagne, l'Europe pour aller vers la Chine, mais c'est une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte J.W.R. en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.